Upload UTC, l'université populaire du libre, ouverte, accessible, décentralisée, à l'UTC. Avec les étudiants de WE01, encadrés par Stéphane Croza et Quentin Duchemin.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Graphite 94.9 ou sur le web à graphite.net. On se retrouve pour cette avant-dernière émission de l'après-midi consacrée à l'UVWE01 de l'UTC, Questionner le web, qui est du coup une matière qui s'interroge un petit peu sur les enjeux contemporains du numérique en rapport avec le web ou le numérique, dont vous pouvez donc retrouver tous les contenus sur librecours.net. Pour cette émission, on est donc en direct, en studio, avec trois étudiants et étudiantes de l'UTC. Bienvenue à vous, donc bonjour Davy, Iba et Julie.
Bonjour.
Donc vous venez présenter les travaux que vous avez réalisés ce semestre. Vous avez notamment étudié pas mal d'articles, de rapports, d'articles d'investigation, articles scientifiques. Vous avez résumé des concepts qu'on a vus en cours et puis vous avez produit une articulation originale qui essaye d'éclairer un petit peu les sujets que vous avez pu lire à travers les concepts du cours. Et voilà, aujourd'hui c'est la restitution à la radio. Merci de vous prêter au jeu et puis voilà, je vous laisse la parole, c'est à vous.
Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission. Nous sommes
Julie Balagès
et Iba Haddadi et aujourd'hui, dans le cadre de l'UVWE1 à l'UTC, nous allons vous présenter un rapport de 2024 qui a été publié par l'Institut National du Service Public. Ce rapport est consacré à l'exposition des enfants aux écrans. C'est un texte assez dense, mais surtout un texte qui alerte. Dès le préambule, la commission dit devoir assumer le discours de la vérité devant la réalité de l'hyperconnexion subie des enfants. C'est peut-être un peu sombre pour vous pour le moment, mais cette émission va vous éclairer sur le sujet. Dans cette émission, nous allons majoritairement traiter les deux premières parties de ce rapport. Dans un premier temps, nous allons le résumer, puis nous décrirons et expliquerons ce qu'est le concept de la publicité ciblée. Et enfin, nous terminerons par l'explication de la relation entre le concept et notre article.
Donc pour commencer, on remarque que dans le rapport, il y a un paradoxe qui apparaît autour des écrans. Et en effet, les écrans peuvent aider les enfants à s'émanciper en leur donnant accès à la connaissance, mais ils peuvent aussi les enfermer lorsque leur fonctionnement repose sur des mécanismes conçus pour retenir leur attention. La commission parle d'un marché où nos enfants sont devenus la marchandise. Pour rendre cela concret, imaginons une scène simple. Un enfant de 12 ans dans sa chambre fait défiler des vidéos. Ce qu'il voit n'apparaît pas par hasard. C'est filtré, c'est sélectionné, ajusté pour qu'il reste connecté le plus longtemps possible. Le rapport insiste bien sur ces stratégies de captation qui sont finalement de véritables pièges cognitifs. En ce qui concerne l'ampleur de l'exposition en France, on compte en moyenne 10 écrans par foyer. Et à 10 ans et demi, un enfant passe déjà plus de 2h30 chaque jour devant un écran. Beaucoup d'enfants naviguent en ligne avant même de maîtriser la lecture. Ils accèdent à des vidéos, à des jeux, des messageries, souvent seuls, parfois avec un contrôle limité. De nombreuses études montrent une diminution de la durée du sommeil, en particulier chez les adolescents. C'est l'une des conséquences de l'hyperconnexion des enfants. En effet, les écrans utilisés le soir retardent l'endormissement, perturbent les cycles et fragilisent la mémoire et l'attention. Et la privation chronique peut alors influencer leur humeur, leur réussite scolaire ou même leur santé physique et mentale.
Il existe également des risques liés au développement de l'enfant, notamment la technoférence. C'est tout simplement le moment où un adulte, absorbé par son téléphone, réduit la qualité de l'échange avec l'enfant. Cette simple interruption, répétée, peut altérer les capacités socio-émotionnelles et le développement du langage. La petite enfance est très sensible à ce phénomène. Enfin, il y a l'accès au contenu inapproprié. Par exemple, 45% des 11-12 ans sont inscrits sur TikTok, alors que l'application est théoriquement interdite aux moins de 13 ans. Finalement, ce que l'on peut retenir de cet article est que les enfants d'aujourd'hui sont quelque peu forcés d'évoluer dans un écosystème numérique qui ressemble parfois à une ville sans trottoir. Une ville où l'on circule vite, souvent seul, où il manque des panneaux de signalisation et où il n'y a pas de lumière. Une ville dans laquelle on s'égare très facilement.
Pour illustrer tout ça, nous avons interviewé des professionnels et des parents pour récolter leurs avis sur le sujet et nous leur avons tous posé la même question. À votre avis, quel est le rapport que les enfants entretiennent avec le numérique et la technologie ? Donc premièrement, nous allons retrouver l'avis d'un directeur d'accueil de loisirs d'enfants de maternelle.
Du coup, au niveau du rapport entre la jeunesse et le numérique, on a de plus en plus d'enfants qui sont impactés au niveau des écrans. On arrive en fait avec une génération d'enfants qui sont nés avec un écran sur la main. On a des enfants, par automatisme en fait, quand on leur demande de faire des activités ou de faire un travail, que ce soit au niveau scolaire ou sur des temps des accueils de loisirs, et ben ils ont un automatisme qui de glisser son doigt vers l'avant, comme si on essayait de tourner des pages sur un écran. C'est aussi lié potentiellement par rapport aussi que certains parents n'ont peut-être pas le temps de prendre du temps d'être avec leurs enfants, de les accompagner, de jouer avec eux, de sortir avec eux. Et donc le seul moyen qu'ils ont, c'est de le mettre devant un écran. Je pense qu'un enfant qui va être un peu plus dynamique, qui demandera un peu plus d'attention pour les canaliser, on va peut-être mettre devant un dessin animé, des choses comme ça. Donc l'enfant, au fur et à mesure, en fait, va s'habituer à regarder des écrans. Ils ont des portables, ils ont le portable de leurs parents parce qu'ils s'amusent à regarder des vidéos sur YouTube ou de plus en plus de vidéos TikTok parce que bah, c'est devenu un peu leur référence par rapport à cela. On voit que ces temps d'enfants devant l'écran augmentent de plus en plus. Et ça inquiète des parents parce que justement, c'est devenu une certaine norme alors que ça ne doit pas l'être. Au lieu de donner un livre à un enfant, je pense qu'il y a des enfants qui ne connaissent même plus, qui s'appuient sur quoi un livre, parce qu'ils ont l'habitude d'avoir un écran. Maintenant, même les adultes, hein. Je pense que dans votre question, il y a cette question au niveau du numérique, mais aussi une double question cachée, c'est comment accompagner les parents. Il y a une étude qui est sortie il y a quelques semaines de mémoire, je l'ai vu ça aux infos, où en fait, sur la journée, on utilise quasiment 3 écrans. Soit l'écran est vraiment constamment autour de nous. En maternelle, je pense qu'ils vont surtout imiter. Au niveau du comportement, s'ils vont avoir un comportement qui n'est pas en norme par rapport à leur tranche d'âge. Il y a des vocabulaires qui ne sont pas adaptés. Après, fais attention, moi, la tranche d'âge que j'ai, certains, ils ont vécu le Covid. Donc là aussi, il y a un impact de l'écran qui était énorme. Parce que c'est la solution de facilité. On arrive dans une génération où le numérique, dans sa globalité, va être présent constamment. Mais c'est difficile, hein. Tout le monde est obligé de rentrer dans l'ère du numérique. La manière dans laquelle on doit rentrer, est-ce que c'est la bonne? Si on peut préserver au maximum la nouvelle génération sur comment bien se comporter, bien comment gérer correctement les écrans, ça serait super. Mais c'est un combat aussi bien.
Deuxièmement, nous avons pu avoir le retour précieux d'une AESH de maternelle et maman d'un collégien.
J'aimerais parler à mon niveau plus professionnel. En maternelle, je peux avoir quand même des conséquences aussi. Et j'ai malheureusement beaucoup plus de conséquences négatives. On s'aperçoit qu'on a beaucoup plus de mal en tant que professionnel au niveau scolaire à captiver les enfants, à pouvoir leur donner un intérêt pour des choses qui sont un livre, une peinture. Je trouve que voilà, on a beaucoup de mal à les captiver. Ça ne les intéresse pas, ils n'accrochent pas. Et on a quand même, avec le temps, compris qu'il n'y a pas l'interaction qu'ils ont avec un écran qui leur envoie une multitude d'informations et qui les captive tout le temps. Et qui fait que je pense qu'à l'école, ils trouvent ça très monotone d'avoir un livre, une histoire qui est racontée ou... Il n'y a pas l'interaction d'un écran qui les stimule comme ça, qui les surstimule. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'ils ont beaucoup, beaucoup moins d'attrait pour des choses qu'il y a quelques années en arrière. Se battaient presque pour le faire. Aujourd'hui, quand on les sollicite à faire un travail manuel ou une peinture, ça ne les attire pas, quoi. On n'a plus ce regard émerveillé d'enfant de faire des travaux manuels. Et dès qu'ils voient un écran, on se jette dessus. Si on a des sessions ordinateur pour la découverte informatique, là, ça intéresse tout le monde. Voilà, j'ai l'impression qu'on les perd dans tout ce qui est créatif et tout ça, l'imaginaire, tout ça, ils ont beaucoup, beaucoup de mal. Il ne faut pas qu'ils s'ennuient, ils veulent passer d'une activité à une autre tout le temps. Alors, on sait que c'est vrai qu'à des âges plus petits, ils ont de l'attention beaucoup moindre que des plus grands, mais malgré tout, on sent qu'on a beaucoup, beaucoup plus de mal à les captiver dans des activités à l'école. Le rapport après, tout ce qui concerne un peu plus âgé, donc la tranche d'âge 13 ans, puisque c'est ce que je côtoie, c'est bénéfique pour moi dans le sens où il y a un relationnel avec l'extérieur pour ce qui est au niveau du travail scolaire, des recherches. Je trouve ça bénéfique d'avoir accès à tout ce qu'on peut trouver au niveau des recherches depuis chez soi pour travailler, d'avoir des supports. Après, évidemment, il y a aussi le côté plus négatif, tout ce qui est harcèlement scolaire, tout ce qu'on peut effectivement écrire derrière un écran qui est plus facile que de dire de visu. Donc il y a beaucoup de prévention à faire parce qu'on a accès aussi à des choses qui ne sont pas à leur portée et pour leur âge.
Troisièmement, nous avons pu obtenir le précieux témoignage d'un parent d'un enfant de 8 ans qui va nous permettre d'observer les aspects plus bénéfiques du numérique chez les enfants.
Je dirais que c'est pas tant un rapport fort par rapport à la technologie, c'est plus par rapport aux écrans en eux-mêmes. Ce que je vois avec mon fils, c'est que cette notion de contenu affiché sur un écran qui l'intéresse beaucoup, et beaucoup plus fortement que ce soit un aspect technologique. C'est-à-dire que ce soit sur un téléphone, une tablette, un PC ou une télévision, peu importe. Lui, ce qui va l'intéresser, c'est de voir un contenu. Ça peut être une émission de télé, ça peut être un film, ça peut être un jeu vidéo. Et vraiment, parce que moi, c'est comme ça que je le ressens. Hein. Ce qui l'intéresse vraiment, c'est d'avoir les yeux rivés sur un écran. Tu vois, par exemple, des contenus culturels. Alors, c'est forcément pas la même chose hein, entre une vidéo et un livre, hein, ou une BD ou quelque chose comme ça. Mais il est quand même moins. Alors, c'est pas forcément moins intéressé, c'est moins accro à tout ce qui va être livre et BD que à ce qui va être un dessin animé sur une télé ou sur un téléphone. Clairement, il y a plein de contenus qui sont très, très bénéfiques pour les enfants. Comme mon fils, il a une boîte à histoire et il est super accro à sa boîte à histoire. Je trouve que c'est beaucoup mieux par rapport au numérique écran parce que ça permet à l'enfant de conserver un imaginaire. C'est pour moi l'énorme inconvénient d'un contenu visuel, c'est que le contenu visuel va te limiter, voire même te réduire à néant ta partie imaginaire. Alors que quand tu écoutes un contenu audio, tu peux avoir cette partie imaginaire dans la tête qui est là quand même et qui te construit l'histoire visuellement parlant dans ta tête. Après, il y a aussi plein de contenus qui peuvent être très, très dangereux. Il faut prendre le temps de bien regarder et de bien filtrer le contenu par rapport à l'âge de ton enfant.
Et enfin, nous avons pu échanger avec une orthophoniste.
La surexposition aux écrans, surtout lorsqu'elle réduit les interactions humaines, exerce un impact notable sur le développement du langage chez l'enfant. En effet, l'enfant apprend à parler grâce aux échanges directs, au contact visuel et à la réponse immédiate de l'adulte aussi. Lorsque les écrans prennent trop de la place, ces expériences essentielles diminuent. Et l'enfant entend moins de langage riche et personnalisé. Il pratique moins d'imitation. La prise de tour de parole et de communication non verbale également. Cette réduction de stimulation indirecte peut entraîner un retard d'acquisition des premiers mots avec vocabulaire plus pauvre, des difficultés à structurer les phrases ainsi qu'une petite capacité à comprendre et à utiliser le langage dans les situations sociales. Sans oublier l'impact sur le développement neurologique chez les enfants de moins de 5 ans. Plus l'exposition est précoce, prolongée et passive, plus les effets sur le développement langagier sont importants.
Merci à tous ces intervenants pour ces précieux retours et cela nous permet de mettre en lumière les conclusions que nous avons pu émettre du rapport. Et maintenant, après avoir analysé ce rapport de la commission, nous avons décidé de développer le concept de la publicité programmatique. Donc pour comprendre ce qui se joue derrière les contenus que les jeunes consomment, il faut revenir sur la manière dont fonctionne aujourd'hui la publicité numérique. Avant, la publicité, c'était assez simple. On montrait un produit, on disait « achetez-le » et c'était fini. Aujourd'hui, la publicité, elle est plus personnalisée et elle est beaucoup plus ciblée. Ce ciblage est structuré par trois éléments principaux. D'abord, il y a la collecte de données. Les plateformes enregistrent l'âge, les préférences et les interactions des utilisateurs. Ensuite, on retrouve la segmentation. Les utilisateurs vont être classés en groupes cohérents, par exemple adolescents, joueurs, préadolescents, fans de danse, élèves anxieux, en période d'examen, etc., etc. Et enfin, vient l'optimisation algorithmique. Avec toutes ces données récupérées, les contenus sont ajustés pour être toujours plus accrocheurs.
Par ailleurs, l'affichage publicitaire se fait aujourd'hui principalement à travers des enchères automatiques en temps réel où chaque espace disponible sur un écran est vendu au meilleur prix selon le contexte ou selon le profil de la personne. Dans le cas où les publicités apparaissent en fonction des données de l'utilisateur, ce n'est plus l'annonceur qui choisit l'endroit où sa pub va apparaître, mais un système d'algorithmes qui décide quelle publicité a le plus de chances de retenir l'attention de l'utilisateur. On voit alors une pub non pas parce qu'elle est la plus intéressante en soi, mais souvent parce que selon les données que le système a récoltées sur nous, c'est elle qui a la probabilité la plus élevée de nous garder connectés. Ces mécanismes de publication ciblée influencent aussi et où et comment la publicité apparaît. Par exemple, sur le plan numérique, une publicité peut être diffusée en fonction de votre localisation. En effet, une personne passant devant une grande enseigne de vêtements et ayant l'application du magasin sur son téléphone va pouvoir en être la cible.
L'application du magasin détecte automatiquement qu'il est en train de s'en approcher. Et comme l'enseigne connaît ses habitudes d'achat grâce à son historique, elle va lui envoyer aussitôt une notification promotionnelle. Cet exemple a été mis en lumière par des chercheurs experts en marketing. Ce type de message envoyé pile au moment où la personne est à côté du magasin augmente la probabilité qu'elle entre et achète quelque chose. Ce n'est pas un hasard, c'est la combinaison de sa position, de son profil et du moment précis. Au fond, la force de la publication ciblée, c'est cette capacité à adapter non seulement le message, mais aussi le lieu, le moment, le visuel et même le type de personne montrée dans la publicité. C'est ce qui rend ces pratiques si efficaces, mais aussi si difficiles à percevoir, surtout pour les plus jeunes.
Par conséquent, derrière chaque vidéo qu'il regarde ou chaque notification qui apparaît, se cachent deux mécanismes, liés mais distincts. D'un côté, les plateformes collectent des données, ce que les jeunes regardent, combien de temps ils restent, ce qu'ils aiment. Et de l'autre, ces mêmes données servent ensuite à déployer des techniques d'influence, notamment la publicité ciblée ou programmatique. Les plus jeunes sont ainsi doublement ponctionnés, une première fois pour capter leur information et une seconde pour utiliser ces informations afin de retenir leur attention. Et ce qui rend le tout encore plus complexe, c'est que ces deux processus se produisent souvent dans les mêmes endroits ou au même moment. Donc concrètement, après avoir collecté ces données, les plateformes proposent encore plus de contenu susceptible de les retenir, chaque fois un peu plus, chaque fois un peu plus captivant. Ainsi, la publicité ciblée provoque des effets sociaux importants. En effet, le ciblage renforce certains centres d'intérêt, peut enfermer dans des bulles d'attention et modifier les représentations de ce qui est normal. Les adolescents y sont particulièrement sensibles car ils réagissent fortement aux récompenses sociales, notamment les récompenses sociales numériques. Prenons l'exemple d'un adolescent qui regarde une vidéo de sport avec laquelle il va interagir. Par la suite, il va sûrement être exposé à une avalanche de pubs pour des compléments ou bien des contenus de fitness ou de bodybuilder et à des routines extrêmes. Et à force de voir toujours la même chose, il pourra finir par croire que ce corps-là, c'est la norme.
C'est là que le concept de publication ciblée se révèle à la fois puissant et risqué. Les plateformes jouent sur nos biais cognitifs, émotionnels et comportementaux pour capter notre attention. Mais les enfants, eux, n'ont pas encore développé les capacités nécessaires pour y résister. Ils sont donc particulièrement vulnérables à ces pièges cognitifs. Cela entraîne plusieurs conséquences, le plus souvent néfastes. Prenons la question du sommeil. L'optimisation des contenus pousse les jeunes à regarder encore une vidéo avant de s'endormir, ce qui nuit à leur repos. Il y a aussi l'accès à des contenus inappropriés. Les algorithmes utilisés par la publicité ciblée ne filtrent pas en fonction de ce qui est adapté à l'âge de l'enfant, mais selon ce qui génère le plus d'engagement. En résumé, cette publication ciblée est l'outil qui transforme l'écosystème numérique en cette sorte de ville sans trottoir. Une ville où les enfants circulent seuls, guidés non pas vers ce qui est bon pour eux, mais vers ce qui les retient le plus longtemps. C'est la conséquence d'un modèle économique qui repose sur la valeur de l'attention.
Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Ce projet a été réalisé sous licence libre CC BY-SA grâce à l'association Graphite. Nous espérons qu'il vous a plu et qu'il pourra vous offrir des clés pour mieux comprendre les enjeux de l'attention dans la vie numérique des enfants. Comprendre la publication ciblée, c'est mieux saisir ses mécanismes et cela nous permettra à tous de pouvoir accompagner et guider la jeunesse. Nous souhaitons remercier tous nos intervenants. Merci à vous tous pour votre écoute et à très bientôt.
Merci beaucoup pour votre travail d'enquête et pour avoir traité ce sujet qui est relativement peu traité en W1. C'est peut-être une des premières fois, donc c'était très intéressant. Vous avez choisi une musique pour faire la transition. Vous pouvez nous dire en deux mots qu'est-ce qu'on va écouter ?
Oui, on a choisi la musique Piscine de Elena qui parle justement de l'addiction aux écrans et de comment est-ce qu'elle l'a vécu.
C'est parti, juste après, du coup, on passera à Davy.
Mon
Merci beaucoup encore Julie et Iba, et on va pouvoir passer à Davy du coup pour une autre facette de quelque part du ciblage, on va dire. C'est à toi.
Bonjour à tous, je m'appelle Davy Tran et aujourd'hui dans le cadre d'un projet de WVZE01, je vous raconte comment des simples likes sur Facebook ont pu servir à influencer la campagne présidentielle américaine de 2016, donc notamment celle de Ted Cruz et de Donald Trump. Je partirai d'un article publié en 2018 dans The Guardian qui revient sur le scandale Cambridge Analytica et qui détaille concrètement les mécanismes du ciblage politique fondé sur nos données. J'introduirai ensuite le concept de raison computationnelle proposé par Bruno Bachimon, qui est un philosophe et enseignant-chercheur à l'UTC, avant d'analyser ce que cette logique change dans le rythme et la fabrication même des campagnes politiques. Donc, en mai 2018, le journal The Guardian a publié un article signé par le journaliste Alex Hearn se consacrant au fonctionnement interne de Cambridge Analytica. Le texte appuie largement sur les révélations de Christopher Willey, donc l'ancien directeur de la recherche de l'entreprise, qui est depuis devenu lanceur d'alerte. L'article s'inscrit dans le contexte du scandale lié à l'exploitation massive des données de Facebook à des fins politiques. Son objectif n'est pas de juger moralement ces pratiques, mais d'expliquer concrètement comment de simples clics sur un réseau social peuvent être transformés en outils d'influence électorale. Le cœur du dispositif repose sur trois grandes étapes. D'abord, la collecte massive de données issues de Facebook. Ensuite, la construction de modèles de prédiction basés sur la psychologie. Et enfin, l'utilisation de ces prédictions pour créer et diffuser des messages politiques ultra ciblés. Pour démarrer, l'entreprise a besoin d'un jeu de données de départ, dans lequel chaque individu est décrit à la fois par ses réponses à un test de personnalité et par ses données Facebook, notamment ses likes. Pour cela, des milliers de personnes sont recrutées via des plateformes de sondage en ligne. En échange de quelques dollars, elles remplissent un questionnaire de personnalité basé sur le modèle des Big Five, puis elles autorisent l'accès à leur compte Facebook via une application conçue par le psychologue Alexander Kogan. À l'époque, cette application ne se limite pas aux données des participants. Elle permet aussi d'aspirer celles de tes amis. Résultat, à partir de quelques centaines de milliers de volontaires, ce sont les profils de plusieurs millions de personnes qui sont collectés. Une partie de ces données est ensuite croisée avec des fichiers électoraux et des baisses de consommation. Vient alors la phase d'analyse. Des modèles de machine learning sont alors conçus pour déduire à partir des comportements en ligne ainsi que les traits de personnalité des éléments comme la probabilité d'aller voter ou les orientations partisanes. Selon Willey, le système aurait généré des centaines de prédictions par lecteur. Ces profils servent ensuite à segmenter l'électorat et à tester différents messages politiques. Un même thème, par exemple l'emploi, peut être présenté sous l'angle du mérite individuel, de l'épanouissement personnel ou de la sécurité selon le profil psychologique de la personne ciblée. Sur des sujets plus sensibles, comme l'immigration ou les armes à feu, certains groupes reçoivent des messages très polarisants, tandis que d'autres n'en voient jamais la trace. Cette communication fragmentée rend ainsi quasiment impossible tout contrôle public ou débat contradictoire. L'article souligne cependant plusieurs limites. D'abord, les données de départ sont biaisées. Les personnes qui répondent au questionnaire sont majoritairement des femmes blanches et plutôt aisées, ce qui pose un vrai problème de représentativité. Ce biais limite la capacité des modèles à produire des prédictions valables pour l'ensemble de la population électorale, puisque certaines catégories sociales sont donc sous-représentées dès la phase d'apprentissage. Ensuite, l'efficacité réelle des modèles est discutée. Devant le Parlement britannique, Kogan affirme que certaines prédictions seraient à peine meilleures que le hasard. Cambridge Analytica aurait donc sans doute exagéré la puissance de ses outils. Enfin, l'article rappelle que ce type de profilage n'est pas un cas isolé comme on l'a vu précédemment. Les grandes plateformes, à commencer par Facebook, développent elles aussi leurs propres techniques pour déduire nos préférences et nos traits de personnalité. L'affaire devient donc alors le symbole d'un phénomène plus large, celui de l'entrée massive des algorithmes et du ciblage psychologique dans le champ politique.
Siècle. 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 Et aujourd'hui, cette affaire, c'est l'affaire Cambridge Analytica. Cyberpouvoir sur France Inter, c'est parti.
Il y a une entreprise qui s'appelle Cambridge Analytica qui a participé à la campagne de Donald Trump pour la présidentielle américaine, qui est accusée d'avoir siphonné les données de dizaines de millions d'utilisateurs de Facebook sans leur consentement. C'est une entreprise, un sous-traitant de Cambridge Analytica, qui a créé en 2014 un quiz. À l'époque, il est possible de récupérer non seulement les données personnelles des gens qui répondent à ce quiz, mais également de tous leurs amis. C'est pour ça qu'ils ont réussi à récupérer autant de données. On est passé très rapidement d'un scandale Cambridge Analytica à un scandale Facebook. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, Des faits, Facebook autorise parfaitement cette aspiration de données personnelles. Du coup, on accuse Facebook d'avoir laissé faire et de ne pas avoir suffisamment protégé les données personnelles.
Je vais maintenant vous présenter le concept de raison computationnelle développé par Bruno Bachimon qu'on a présenté précédemment. Il s'inscrit dans une réflexion plus large sur la manière dont les supports techniques transforment nos façons de penser. Cette idée prolonge une distinction plus ancienne formulée par l'anthropologue Jacques Goudy entre la raison orale et la raison graphique. Avec l'invention de l'écriture, la parole a été fixée dans des supports stables, comme des listes, des tableaux ou des diagrammes, ce qui a profondément modifié notre manière de classer les informations, de comparer, de raisonner et de démontrer. L'écriture n'a pas seulement servi à conserver la parole, elle a transformé en profondeur nos formes de pensée. Aujourd'hui, avec l'informatique et le numérique, un nouveau type de support apparaît. La raison computationnelle désigne alors la forme de rationalité qui devient possible lorsque le monde est représenté sous forme de données discrètes, codées et manipulables par le calcul. Concrètement, un ordinateur ne traite que des suites de bits, des 0 et des 1, mais une fois organisées, ces suites permettent de représenter des textes, des images, des sons, des relations sociales ou encore des profils d'utilisateurs. Et surtout, elles permettent d'appliquer automatiquement des opérations à ces contenus grâce à des programmes. On ne se contente donc plus d'écrire et de lire des signes, on conçoit désormais des données, des formats, des modèles et des algorithmes capables de transformer ces données de façon automatique, selon des règles bien définies. On peut dégager trois grandes caractéristiques de cette raison computationnelle. Ces caractéristiques sont constituées ici une manière simplifiée de rendre ce concept plus accessible, sans prétendre reprendre mot pour mot la terminologie de Bruno Bachimon. La première, c'est la représentation discrète et structurée des contenus. Pour que le calcul soit possible, il faut traduire des réalités très diverses, comme des comportements humains, des textes, des images ou des relations sociales, en structure formelle. Cela prend la forme de tableaux de valeurs, de graphes, de matrices ou de vecteurs de caractéristiques. Cette mise en forme rend certaines opérations très faciles, comme le tri, le filtrage, l'agrégation ou l'optimisation, mais elle limite aussi ce qui peut être pris en compte. La deuxième caractéristique, c'est la calculabilité. La raison computationnelle repose sur la définition d'algorithmes, c'est-à-dire de procédures précises, fines et reproductibles qui transforment des données d'entrée en résultats. Une fois un problème formulé en termes calculables, l'ordinateur peut traiter des masses de données immenses et explorer des possibilités que l'esprit humain serait incapable de parcourir de manière exhaustive. La troisième caractéristique, c'est la programmabilité. Les modes de traitement ne sont jamais figés, on peut modifier les programmes, tester différentes méthodes, changer les critères d'optimisation, comparer plusieurs modèles. La raison computationnelle est donc une raison expérimentale, paramétrable, fondée sur l'essai, l'ajustement et la comparaison des performances. Mais cette puissance soulève aussi de nombreuses questions. Les avancées numériques permettent certes de traiter des problèmes complexes à grande échelle, mais elles obligent aussi à s'interroger sur ce qui est perdu lorsqu'on traduit des réalités humaines, sociales ou psychologiques en variables numériques. Lorsqu'on traduit, on tend à confondre ce qui est calculable avec ce qui est forcément vrai ou juste. Les IA génératives en sont un bon exemple. Elles peuvent produire des textes très convaincants tout en étant faux, biaisés ou trompeurs. Le calcul donne donc des résultats, mais pas automatiquement du sens ni de la vérité. C'est pourquoi la raison computationnelle doit toujours être mise en dialogue avec d'autres formes de jugement afin d'interroger les limites, les biais et les effets sociaux des modèles. Enfin, l'automatisation a un autre effet important. Elle tend à rendre invisibles les choix techniques qui structurent les résultats. Les critères d'optimisation, les seuils de décision, la manière dont les données sont construites sont rarement accessibles au public. La raison computationnelle devient alors en même temps un outil de clarification pour les concepteurs et une source potentielle d'opacité pour les personnes qui en subissent les effets.
Un peu loin, mais c'est cette idée de base sur laquelle donc s'est fondé Bruno Bachimon pour nous proposer la notion de raison computationnelle et donc d'arriver à considérer que le passage au numérique n'est pas non plus simplement un changement de modalité dans lequel on aurait plus d'informations ou une information plus rapide ou des éléments de ce type-là, mais on aurait bien l'émergence d'une nouvelle rationalité, c'est-à-dire d'une nouvelle façon de penser, d'une nouvelle façon d'organiser notre connaissance. Et donc, si on est d'accord avec...
Quand on relit l'article du Guardian avec l'idée de la raison computationnelle en tête, on peut faire ressortir une autre transformation très forte qui n'est pas toujours visible au premier regard, celle du temps de la campagne politique. Traditionnellement, une campagne se déroule selon un rythme assez lent. On prépare un discours, on lance une idée, on observe les réactions dans les médias, dans les sondages et sur le terrain. Ainsi, il y a toujours un délai entre l'action et ses effets. Le débat public se construit dans cette durée. Avec le système décrit autour de Cambridge Analytica, ce rapport au temps change complètement. Les messages sont testés en continu, parfois sur des très petits groupes. On ne parle plus d'attendre plusieurs semaines pour savoir si une idée fonctionne bien. Les résultats arrivent presque tout de suite à travers des chiffres. donc les nombres de clics, de partages, de vues et des réactions. Chaque interaction devient alors un signal, et ces signaux sont immédiatement réinjectés dans le système. Ce qui marche est renforcé, ce qui marche moins est abandonné. La campagne devient alors une sorte de laboratoire permanent. Avec ces dispositifs numériques fondés sur le calcul automatique, on comprend que le raisonnement politique ne repose plus seulement sur l'intuition, l'expérience ou la stratégie humaine. Il est de plus en plus guidé par des boucles automatiques d'optimisation. Le système teste, compare, ajuste encore et encore à grande vitesse. Cela change profondément le rôle du message politique. Avant, un message était pensé pour durer, pour structurer un récit, pour porter une vision à long terme. Ici, le message devient instable, il peut être modifié en quelques heures s'il ne produit pas les bons résultats, il n'est plus un point d'arrivée, mais une variable que l'on ajuste en permanence. Ce qui devient central, ce ne sont plus forcément les idées les plus cohérentes ou les plus solides, mais celles qui performent les mieux dans les données. Ce qui compte, ce ne sont plus seulement les convictions, mais les indicateurs. Et cette logique a une autre conséquence importante, le temps de la discussion et du débat s'efface en partie. Beaucoup de décisions ne passent plus par l'espace public, par les échanges visibles, mais par des systèmes techniques intégrés aux plateformes comme Facebook. Les ajustements se font en coulisses, dans les algorithmes, sans que les citoyens puissent vraiment en avoir conscience. Les plateformes numériques imposent aussi ainsi un rythme beaucoup plus rapide de campagne. On passe d'une politique du discours et du débat à une politique de l'ajustement permanent pilotée par les données. La décision politique devient alors un processus hybride. Elle reste en partie humaine, mais elle est aussi de plus en plus influencée par des mécanismes automatiques qui recalculent en permanence ce qui doit être montré, à qui et à quel moment. Au fond, cette transformation du temps montre une chose essentielle. La politique ne se construit plus seulement dans les débats, les discours et la durée. Elle se fabrique aussi dans l'instant, dans l'ajustement permanent des messages par les données et les algorithmes. Ce déplacement pose une question simple mais décisive. Qui décide vraiment quand les décisions ne se prennent de plus en plus vite dans des systèmes techniques que la majorité des citoyens ne voient pas?
Merci beaucoup, Davy, pour ton intervention et pour cette analyse très, très originale quand même sur la raison computationnelle, la politique, le ciblage. Et ça donne vraiment des angles de réflexion intéressant, j'espère, pour moi en tout cas, pour nos auditeurs et nos auditrices. Pour préciser, je ne sais plus si tu l'as dit, mais ton premier extrait, donc c'était d'une émission de France Inter avec Marie Pelletier, hein, c'est ça qui intervenait. Et le deuxième extrait, c'était Stéphane Crozat dans une conférence sur le document numérique où il évoquait la raison computationnelle. Et donc pour finir, en attendant de voir s'il y a une question rapide qui arrive, on va écouter donc la musique que tu as choisie. Musique sous licence libre, n'est-ce pas?
Ouais.
Et donc qui est Smooth Moon de Peer-Gynt Lobo-Gris que tu as dénifié sur Dogmazic. C'est parti. est de retour pour les questions. Merci beaucoup au groupe d'avoir posé des questions. Questions très, très, pas faciles hein, quand même. Donc on va en prendre une qui n'est pas trop glissante. C'est de savoir, Davy, est-ce qu'on ressemble à notre avatar numérique ?
Alors moi, je pense pas vraiment. D'après l'article, comme on a pu le voir, Cambridge Analytica a pu sortir des prédicteurs en fonction de nos likes et de questionnaires psychologiques. Mais les données qui en sont sorties, on a dit, comme on a pu le voir, étaient très biaisées, puisqu'elles étaient basées de base sur des personnes très catégorisées. C'est pour ça que notre avatar numérique peut pas être défini avec précision avec des simples algorithmes.
Et est-ce que, peut-être que c'est ce que la question voulait dire, mais est-ce que si on récoltait plein de données, toujours plus, est-ce qu'on finirait par tout savoir à partir, finalement, sur nous, à partir de données, quoi ? Est-ce qu'on pourrait avoir un vrai double numérique ?
Je pense pas qu'on pourrait savoir tout sur nous, mais comme on peut le voir avec les algorithmes de ciblage style TikTok, avec la page pour toi, on voit qu'elle se base sur nos likes pour nous présenter du contenu qui nous plaît vraiment, enfin, qui a l'air de nous plaire en fonction de ce qu'on a liké précédemment, ce qu'on a regardé, etc. Donc je pense qu'on pourrait nous décrire, mais justement que à l'instant T et pas en permanence, quoi.
Merci beaucoup encore, Davy, pour ton travail et pour ta présentation. On fait une petite pause et puis on reprend juste après. À tout de suite. Woke up this morning, I feel so fucking important. I looked in the mirror, I'm different. I finally made a decision. All the rejected, the last, the lack of respecting themselves, cause people get hectic. They hurt you and make you feel helpless. They're not brave like you, they're too scared to do anything that's different, anything that's new. I don't need lessons, I do what I want, it's refreshing. As soon as you taste independence, you start living life in the present. Hey there, how you been? I'm the voice in your head and I know you've been aching. When you find me, let me in. I got power in my hands and it's yours for the taking. Introduce a new religion, I'm feeling like a boss. You don't need less. Rebonjour à toutes et à tous, rebonsoir. On se retrouve du coup pour le dernier binôme de cette session. Bienvenue à vous, Shiraz et Ayem.
Merci. Bienvenue. Aujourd'hui, on est sur Graphite et vous nous écoutez sur le 94.9 FM. Et aujourd'hui, nous sommes deux étudiants qui allons nous intéresser à une question qui concerne tous les utilisateurs du numérique. Le thème du jour est le suivant. Est-il vraiment possible de boycotter la tech américaine? La question paraît simple, mais comme vous l'avez entendu, la réponse est bien plus complexe qu'on l'en pense. L'auteur de l'article que nous avons étudié découvre en réalité un système technologique profondément enraciné qui façonne nos usages au point de devenir presque incontournable. On vous propose d'abord de résumer les grandes idées, puis de montrer comment cela rejoint un concept central du cours qui est le capitalisme de surveillance.
Hé, hey, rapido!
Where is Mo?
T'entends ce rythme endiablé? Ça fait danser les rats, ça. C'est parti.
Du coup, aujourd'hui, on s'appuie sur un article publié sur Next, intitulé « Boycotter la tech américaine ». C'est théoriquement possible, mais ça ne veut pas être simple. Dans ce texte, l'auteur tente une expérience personnelle, examiner son usage numérique et voir jusqu'où il pourrait aller pour éviter les technologies américaines. À travers ce test, il met en lumière l'ampleur, souvent invisible, de notre dépendance à cet écosystème. L'article montre d'abord que cette dépendance ne se limite pas à l'utilisation des applications connues comme Google, Instagram ou même Windows. Elle concerne aussi des éléments que nous ne voyons jamais, qu'on pense au matériel, système d'exploitation, standards techniques, services d'hébergement ou même des outils de travail collaboratif. Par exemple, l'auteur explique que même s'il change de clavier, de souris ou d'écran, les composants essentiels de son ordinateur, processeur, carte graphique, restent fabriqués par des entreprises américaines, ce qui rend impossible une rupture totale. Il note également que des services largement utilisés en Europe, comme des clouds professionnels, reposent très souvent sur Amazon ou Microsoft. L'article souligne aussi que cette situation limite la capacité européenne à maîtriser pleinement ses outils numériques et à définir ses propres standards technologiques. Il s'agit ici de la lecture proposée par l'auteur, que nous rapportons sans la prendre comme une vérité générale. Selon lui, cette dépendance place l'Europe dans une position davantage réceptrice que productrice d'infrastructures numériques.
Et dans la deuxième partie, l'article montre qu'un boycott total, même s'il semble séduisant, est extrêmement difficile à mettre en œuvre. Changer de système d'exploitation, modifier ses logiciels, migrer ses données ou renoncer à certains services entraîne des contraintes importantes pour un particulier comme pour une entreprise. L'auteur reconnaît cependant l'existence des solutions alternatives européennes, open source ou auto-hébergées, mais il souligne qu'elles demandent un apprentissage et une collaboration collective pour être réellement viables. Pour lui, le boycott n'est donc pas un objectif en soi, mais un signal. Il permet de mettre en évidence la nécessité de développer un écosystème technologique, puis diversifié, en combinant choix individuels et politiques publiques. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur Graphite, nous parlions de la tentative de l'auteur de se passer de la tech américaine et de la dépendance structurelle qu'il met en évidence. Pour comprendre ce phénomène, dans un cadre plus large, on peut maintenant mobiliser un concept central du cours, qui est le capitalisme de surveillance.
Hé, hey, rapido!
Where is Mo?
T'entends ce rythme endiablé? Ça fait danser les rats, ça.
C'est parti.
Le capitalisme de surveillance. Du coup, le capitalisme de surveillance désigne une manière contemporaine d'organiser l'économie numérique où la surveillance devient un moyen de produire de la valeur. C'est-à-dire, les dispositifs techniques, tels que plateformes, applications, capteurs et même infrastructures, récoltent en continu des informations sur les activités et les environnements des individus. Ces informations sont ensuite traitées, analysées ou comparées et acquièrent une valeur décisionnelle, c'est-à-dire qu'elles servent à orienter des choix, à classer des situations ou à anticiper des comportements. Ce modèle repose sur plusieurs dynamiques. Il transforme d'abord l'information en ressources, ce qui est collecté devient exploitable pour prendre des décisions optimisées de processus. Il s'accompagne ensuite d'une concentration du pouvoir informationnel entre les acteurs capables de stocker, de traiter ou même d'analyser ces données, ce qui leur donne un rôle central dans l'économie numérique. Enfin, il s'appuie sur des pratiques de quantification et d'automatisation aussi, comme rendre mesurables des comportements, intégrer ces mesures à des outils d'analyse ou de prévision et automatiser certaines réponses aussi. Le capitalisme de surveillance ne se limite pas aux entreprises numériques. De nombreux acteurs, publics, privés, industriels ou même administratifs, adoptent ces dispositifs parce qu'ils y voient un intérêt. Réduire l'incertitude, ajuster des décisions, organiser des flux, optimiser des performances ou mieux cibler les publics. En intégrant ces outils à leur pratique, ils participent à l'extension du modèle et contribuent à diffuser une manière de gouverner basée sur la collecte permanente de l'analyse de l'information. Cette logique modifie les relations entre institutions et populations, ainsi que les pratiques professionnelles. Les environnements numériques deviennent des espaces où l'on récolte, stocke, compare et évalue en permanence. Les décisions automatisées, qu'il s'agisse d'un tri administratif, d'une recommandation en ligne ou d'une gestion de transport, s'inscrivent dans cette rationalité où l'information produite en continu structure l'organisation, l'action organisationnelle.
Et à partir de là, on peut mieux comprendre le lien avec l'article. Ce que décrit l'auteur n'est pas un phénomène de surveillance directe, mais un exemple très concret des effets du capitalisme de surveillance généralisé. Et c'est précisément ce qu'on va voir maintenant.
Hé, hey, rapido !
Ouais, Razmo !
T'entends ce rythme endiablé ? Ça fait danser les rats, ça.
C'est parti.
L'article de Next ne parle pas directement de surveillance, mais il offre un exemple très éclairant de ce que décrit le capitalisme de surveillance. Ce que l'auteur met en évidence à travers sa tentative de boycott, c'est que notre environnement numérique est structuré par des infrastructures, des standards et des services qui rendent le choix individuel très limité. Le problème n'est donc pas seulement la dominance de certaines entreprises, mais la manière dont un système entier repose sur des infrastructures pensées pour fonctionner grâce à des flux de données, des modèles, des plateformes et des dépendances techniques difficiles à contourner. Le lien avec le capitalisme de surveillance apparaît alors moins dans la collecte de données que dans cette logique structurelle. Nos usages, nos outils et même nos marges d'action sont encadrés par une organisation du numérique où les infrastructures sont concentrées entre les mains de quelques acteurs. L'article montre bien que changer d'ordinateur, modifier ses services ou chercher des alternatives ne suffit pas, parce que l'écosystème lui-même repose sur un ensemble d'interconnexions techniques et économiques qui orientent des décisions presque en amont des usages. Ce que l'expérience de l'auteur révèle, c'est aussi une question plus large. Si les alternatives existent mais peinent à s'imposer, est-ce que le capitalisme de surveillance produit des conditions où seuls les acteurs capables d'opérer à grande échelle, genre en termes de données, de calcul et d'infrastructures ? L'article invite alors à penser la souveraineté numérique, non pas comme un geste individuel, mais comme un enjeu systématique. Comment créer des outils, des infrastructures ou des modèles techniques qui ne reproduisent pas les mêmes dépendances ? Comment imaginer un numérique qui ne s'organise pas uniquement autour de la prédiction, de l'optimisation ou de la centralisation ?
Au fond, l'article donne à voir une tension caractéristique du capitalisme de surveillance. Nous utilisons tous des technologies dont les logiques d'organisation nous dépassent largement. Et même lorsque l'on cherche à s'en écarter, on découvre qu'elles sont intégrées à nos environnements matériels, sociaux ou même professionnels. L'expérience du boycott devient alors un révélateur. Elle met en lumière non pas nos choix individuels, mais la structure même du système dans lequel ces choix s'inscrivent. Pour conclure, voilà, c'est notre exploration du boycott de la tech américaine et de ce qu'il révèle sur l'organisation de notre environnement numérique. L'article nous montre qu'au-delà des choix individuels, c'est tout un système d'infrastructures et de décisions automatisées qui façonnent nos usages. Le capitalisme de surveillance nous aide à comprendre cette logique et les limites qu'elle impose à notre marge d'action. Merci à tous de nous avoir écoutés sur Graphite 94.9 FM. C'était Tech et Société. On vous dit à très bientôt.
Merci beaucoup pour cette dernière intervention du mercredi qui du coup pose la question très très complexe de qu'est-ce qu'on pourrait faire comme numérique alternatif. Si ça vous intéresse d'y réfléchir, bah, n'hésitez pas à faire ça. Vous allez voir, c'est vraiment pas simple entre justement le boycott ou l'impuissance. On se retrouve eh bien, la semaine prochaine à 14h pour une nouvelle série d'émissions. Merci à vous deux d'être restés alors qu'on est un petit peu en retard et bonne soirée tout le monde.